Vous êtes toujours avec nous sur Bac FM 106.1. Vous le savez, après le journal de 13h, c'est CDLP, l'émission où je donne la parole quotidiennement à des actrices qui font l'actualité dans notre beau département nivernais. Raoul Folreau a une section Sciences Po qui permet aux meilleurs élèves de tenter leur chance sereinement dans cette filière prestigieuse. À l'heure où le monde est incertain, où le président de la première puissance mondiale aux dérives autoritaires, Donald Trump, s'amuse à jouer au risque avec le monde entier, à l'heure où les puissances impérialistes semblent être de retour avec un appétit vorace, former des étudiants en sciences politiques nous semble être une pas si mauvaise idée que ça. Bonjour Sarah Timon.
Bonjour.
Vous êtes référente au pôle égalité des chances à Sciences Po.
Tout à fait.
Référente pôle égalité des chances à Sciences Po, ça veut dire quoi ?
Alors en fait, on a un programme d'égalité des chances qui a été mis en place en 2001 par Richard Descoings, qui avait pour objectif de diversifier les étudiants qui rentraient à Sciences Po Paris. Puisque c'est, on dit Sciences Po, mais Sciences Po, il y en a 10 en France, donc moi je représente Sciences Po Paris. Pour cette diversification, ce qui a été mis en place, c'est des ateliers dans des lycées qui sont conventionnés. Pour être conventionné, il faut correspondre à un certain nombre de critères sociologiques. Et une fois qu'on est conventionné, dans les établissements, des ateliers sont mis en place en première et en terminale pour préparer à l'enseignement supérieur sélectif. Et ça permet de passer par une voie spécifique d'admission à Sciences Po, qui est plus avantageuse que la voie générale.
C'est une voie spécifique qui nous aide plus facilement à rentrer.
Exactement. En fait, il y a un taux de sélection qui est aux alentours de 20% sur cette voie, là où sur la voie générale, elle est plutôt de 8%.
Quand on parle d'égalité des chances à Sciences Po, ça veut dire quoi ? Parce que on connaît qu'il y a des inégalités de classe, de genre, de représentation des différentes minorités. Je parle pas à Sciences Po spécifiquement, mais dans la société. Comment vous assurez la représentation de l'égalité des chances ?
Alors, l'égalité des chances au sens du pôle égalité des chances de Sciences Po, c'est vraiment sur les inégalités sociales et scolaires. Ce que l'on cherche par cette voie, c'est à faire entrer à Sciences Po des élèves qui ne savent absolument pas ce qu'est Sciences Po Paris, ne savent pas ce que l'on y apprend, n'ont jamais entendu parler, des élèves dont les parents n'ont pas fait d'études supérieures, des élèves qui ne s'autorisent pas à penser à Sciences Po Paris, alors qu'ils en ont tout à fait les capacités. Donc vraiment, quand on parle d'égalité des chances à Sciences Po Paris, ça ne correspond pas aux problématiques de genre, de race, c'est sur des difficultés sociales et scolaires, d'ambition sociale et scolaire.
Bien que parfois, j'imagine que l'un peut aller avec l'autre.
Oui et non. Alors, on a d'autres services qui s'occupent des discriminations.
Alors, du coup, on parlait de ces ateliers Sciences Po dont Raoul Folreau est, j'allais dire partenaire, c'est peut-être pas le bon mot.
Si, ce sont des lycées partenaires.
Je ne sais pas si vous avez des chiffres là-dessus, mais il y en a combien à peu près des...
Alors, on a 193 lycées aujourd'hui qui sont conventionnés dans tous les territoires métropolitains et tous les territoires ultramarins.
Première, terminale.
Oui.
Pourquoi pas seconde ?
Alors, parce que déjà, il est difficile de mettre dans les emplois du temps des élèves des ateliers en première et en terminale, et qu'il y a déjà une marche entre la troisième et la seconde, qu'il faut qu'ils s'habituent au lycée, qu'ils commencent à mûrir un peu avant d'avoir un projet sur les sciences humaines et sociales. Donc, il se trouve qu'à Raoul Folreau, je sais qu'il y a des élèves de seconde qui participent aux ateliers.
C'est la question, oui.
Ce n'est absolument pas interdit. Ce qui est demandé, c'est au moins première et terminale. C'est-à-dire que ne peuvent passer le concours par la voie d'admission des conventions d'éducation prioritaire que des élèves qui étaient dans l'établissement dès la seconde et ont suivi les ateliers en première et terminale. L'obligation de suivi des ateliers, c'est première et terminale. S'ils les suivent dès la seconde, très bien. Mais là,
ils peuvent l'intégrer quand même dès la seconde, mais ce n'est pas...
Très bien, voilà. Ce n'est pas du tout un souci. On a même des établissements qui, par le biais des cordées de la réussite, font un tuilage dès la troisième avec des classes CNRD, donc Concours National de la Résistance et de la Déportation, ou des classes spécifiques sur les sciences politiques. Ce n'est pas interdit. Maintenant, l'obligation pour les élèves, c'est d'avoir suivi les ateliers en première et terminale.
Je vais rester sur les chiffres. Vous en prenez combien à peu près des lycéens qui sortent de cet atelier sur tout le bassin de lycées partenaires ?
Alors, ça dépend des années. On en a entre 150 et 200.
Sur combien de candidatures ?
À peu près 1000.
C'est suffisant ?
c'est déjà ça.
C'est déjà ça. J'imagine que vous aimeriez plus.
On aimerait toujours plus. Après, nous ne poussons pas les murs, malheureusement.
Des enjeux donc, de logistique.
Il y a des enjeux de logistique, il y a des enjeux d'intégration. Et puis, il y a un élément qui est quand même très important, c'est que nous ne transigeons pas sur l'exigence scolaire. Les élèves qui intègrent par cette voie ont un excellent niveau scolaire. Voilà, on ne peut pas non plus passer outre cet élément-là. Et c'est vraiment important en termes d'intégration.
Y a un élément que j'aimerais préciser avec vous. Les lycéens qui sortent du lycée Rolf Olro, c'est pas une règle, mais sont d'une classe sociale sans doute moins élevée que ceux qui sortent d'un lycée à Paris. Et on sait qu'il est parfois difficile de se loger à Paris, pour pas dire... quasiment impossible. Donc, admettons, l'élève de lycée sort de Sciences Po, il a d'excellentes notes, il est pris, génial. S'en vient un parcours du combattant absolument terrible. Logement.
Alors, ils ont la chance d'avoir été acceptés dans une école qui les accompagne aussi sur la recherche de logement. On a un service qui s'occupe des logements. Il y a un principe d'entraide aussi entre les élèves, qui fait qu'on a des fichiers de logements qui sont mis à disposition, notamment sur Paris, puisque Sciences Po Paris, ce n'est pas qu'à Paris. Pour les premières années, nous avons 7 campus à Paris et 6 délocalisés en province.
Vous voulez en citer quelques-unes des...
Alors, nous avons Reims, Nancy, Dijon, Menton, Poitiers et Le Havre, en plus de Paris, et chacun a une spécificité géographique. Sur ces campus-là, on fait le même programme partout, mais il y a un focus qui est fait sur certaines zones géographiques du monde. C'est-à-dire que, par exemple, à Reims, il y a 2 programmes. Il y a un programme Amérique du Nord et un programme Afrique.
Sur le programme du fond en tant que tel, sur ce que les élèves apprennent?
Exactement.
Et ça leur donne, alors un avantage peut-être le grand mot, mais en tout cas ça leur donne des meilleures chances d'intégrer... vous voulez dire, ça c'est déjà sur les antennes.
Voilà, C'est exactement. C'est-à-dire qu'en fait, les élèves sont admis à Sciences Po, Paris, et ils sont affectés sur un des programmes. Chaque élève doit proposer de programme au moment de l'entretien, dire voilà, moi je suis intéressé par un programme Amérique du Nord à Reims et Amérique latine à Poitiers. Expliquer pourquoi ces zones géographiques l'intéressent particulièrement. Voilà, les élèves vont avoir les cours qui sont dispensés sur le bachelor, donc des cours de droit, d'économie, de sociologie, d'histoire, de sciences politiques et de philosophie politique, avec un point de vue français et le point de vue de la zone géographique qui sont étudiés.
Donc selon l'antenne, les options ne sont pas tout à fait les mêmes.
Voilà, il y a des cours spécifiques à ces zones géographiques.
J'aurais sans doute dû commencer par là, mais il y a peut-être des secondes qui nous écoutent et qui se disent « Sciences Po », alors je sais que ça veut dire « sciences politiques », mais en fait ça veut dire quoi « Sciences Po »
Alors, effectivement, quand on dit « Sciences Po », on se dit qu'on va faire de la politique, et très peu. Parce que comme je vous l'ai dit, on a 6 matières fondamentales, donc je les répète, c'est le droit, l'économie, la sociologie, la science politique, l'histoire et la philosophie politique. Ce sont les 6 matières fondamentales que tous nos étudiants travaillent pendant les 3 premières années. L'idée de Sciences Po, c'est de comprendre à travers ces 6 matières fondamentales comment fonctionne le monde aujourd'hui. Parce qu'un problème particulier n'a pas qu'une explication ou qu'une conséquence, il doit être expliqué par ces différentes matières. Et donc, nos étudiants étudient des problématiques, des grands enjeux du monde contemporain avec tous ces éclairages-là. Ça donne une grille de lecture du monde. Pour ensuite se spécialiser en master, donc les 2 années après la licence.
Les spécialités portent sur...
Alors là, après Sciences Po, on peut faire beaucoup de choses.
Et, journalisme.
On peut faire du journalisme, puisqu'on a une école de journalisme. On a en fait 8 grands thèmes de spécialisation. Nous avons l'école des affaires publiques qui prépare à tous les métiers de la haute fonction publique, tous les concours de la haute fonction publique. Peut-être que parmi vos auditeurs, certains se disent, mais qu'est-ce que c'est que la haute fonction publique ? Donc, il y a ce qu'on appelait l'ENA avant, qui s'appelle l'INSP aujourd'hui. Mais il y a aussi
l'école dont sortent beaucoup de politiques.
Dont sortent beaucoup de politiques, mais pas que. Dont sortent aussi les préfets, toutes les personnes qui ont des responsabilités importantes au sein des collectivités territoriales et des ministères. Il y a l'école des affaires internationales, qui là est sur tout ce qui est relations internationales, mais aussi pour tous les métiers des ONG et de l'humanitaire. L'école de droit, pour ceux qui veulent être avocats, magistrats ou conseillers juridiques. L'école de journalisme, pour les journalistes.
On salue ici particulièrement, évidemment.
Voilà. L'école du management et de l'impact qui prépare à toutes les fonctions support des entreprises, donc les ressources humaines, la finance, la stratégie, la communication, le marketing. Nous avons l'école urbaine qui, elle, est sur l'aménagement du territoire. Nous ne formons pas des urbanistes, mais nous formons des décideurs locaux sur les questions d'aménagement du territoire. L'école de la recherche, des élèves qui se sont passionnés pour l'histoire, la sociologie, la science politique ou l'économie peuvent choisir un domaine de recherche et travailler dessus pendant 2 ans. Je ne sais plus à combien je suis.
Il y a quelques exemples.
Voilà, il y a quelques exemples. Et la dernière année des écoles avec le tout nouveau master, c'est l'école du climat, pour former les décideurs privés et publics de demain à mettre en place des politiques de transition écologique, soit dans les entreprises, soit au niveau local, régional, départemental, voire national, puisque les solutions techniques existent, mais aujourd'hui, force est de constater que nous n'arrivons pas à les implémenter.
Effectivement, on en a cruellement besoin, je crois. Ça fait une transition avec ma prochaine question, parce que le monde tourne. J'ai cité en introduction les multiples actualités de notre président américain Donald Trump. Est-ce que le programme de Sciences Po tourne en même temps que le monde ? Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais est-ce que c'est adapté à l'actualité ? Parce que ce qui était vrai il y a 10 ans ne l'est peut-être plus aujourd'hui. Est-ce que ça aussi c'est pris en compte ?
Alors, évidemment, c'est pris en compte parce que nous travaillons sur les grands enjeux du monde contemporain. Donc, ce sont les sujets qui sont traités. Et typiquement l'année dernière et cette année, nos étudiants qui rentrent en première année ont un cours de droit constitutionnel qu'on appelle institution politique chez nous. Et beaucoup d'exemples ont été pris dans l'actualité française. Pourquoi à l'Assemblée nationale on peut avoir motion de censure ? Qu'est-ce qui est écrit dans les textes ? Qu'est-ce qui est autorisé ?
49-3, j'imagine.
Voilà, le 49-3, la genèse du 49-3, l'histoire du système parlementaire français. En fait, c'est la base.
En fait, on se sert de l'actu pour descendre, voilà.
Pour l'expliquer. Enfin, on se sert de nos matières pour expliquer ce qui se passe. C'est vraiment donner une grille de lecture du monde.
Alors, s'il y a un second qui nous écoute et qui se dit, l'atelier Sciences Po, ça me parle, je fonce, même si il ne pourra l'intégrer qu'officiellement en première. Comment ça marche, en fait ? Est-ce qu'il faut faire une candidature ? Qu'est-ce qui se passe ?
Alors là, ça dépend vraiment des établissements. Chaque établissement a sa propre politique. Il faut de toute façon qu'il se rapproche des personnes qui sont responsables de l'atelier. Je sais qu'à Raoul Folreau, c'est ouvert dès la seconde, donc surtout qu'il n'hésite pas à y aller dès maintenant pour voir ce que l'on y fait et en quoi ça l'intéresse. Et de toute façon, je les encourage, ils sont plusieurs, déjà à s'intéresser à l'actualité, à lire la presse. Et alors, si dans un premier temps, à écouter Bac FM. Si dans un premier temps, lire la presse et Bac FM ne suffit pas, on ne sait jamais, à regarder aussi des émissions d'information, des documentaires.
Vous avez des recommandations personnelles ?
Alors, souvent les élèves aiment beaucoup Hugo Décrypte, qui est un ancien Sciences Po Paris, donc on peut le...
donc on le signale.
Voilà. Et en l'occurrence, il explique facilement l'actualité. Maintenant, ça ne suffit pas. Il va falloir, sur les sujets, aller fouiller un peu plus les informations et se renseigner. Donc ça peut être soit par la presse et dans tous les CDI, il y a des abonnements presse, donc c'est vraiment se rapprocher des documentalistes aussi qui ont beaucoup de bons conseils, mais avoir cette routine d'informations, d'intérêt pour l'actualité, et dès qu'ils ont une information, de s'interroger. Est-ce que cette information, elle est de première source? Est-ce que je sais qui a donné l'information, d'où il vient et comment il l'a obtenue? Ou est-ce que c'est une source secondaire? Est-ce que cette source secondaire est fiable? Déjà avoir ce cheminement d'interrogation par rapport à l'information.
C'est quoi un bon candidat à Sciences Po? C'est quelqu'un de curieux?
C'est quelqu'un de curieux, c'est quelqu'un qui est capable de faire preuve d'esprit critique. Et l'esprit critique, alors c'est compliqué, ça commence par soi. Est-ce que ce que je le pense vraiment? Est-ce que j'ai des éléments factuels et scientifiques qui me le prouvent?
C'est pas très humain, ça. On
ne le fait jamais. C'est pour ça que je dis que c'est très compliqué. Il faut s'entraîner, notamment sur des sujets qui nous tiennent vraiment à cœur. Se demander si on a cette idée parce qu'on a été fouillé à nouveau et chercher des éléments, ou parce que chez nous on pense comme ça et ce n'est pas un mal en soi, c'est juste en avoir conscience. Donc faire déjà ce premier travail qui n'est pas facile et qui n'est pas du tout naturel, on est d'accord. Et ensuite, se mettre dans la position de celui qui pense différemment. Et faire le même travail. Est-ce que je peux trouver des éléments factuels et scientifiques qui me prouvent que cette opinion est valable? Et en ayant fait ces deux démarches, est-ce que finalement je ne peux pas nuancer un peu mon propos?
Et enrichir les idées.
Et enrichir les idées. Et être plus intéressant dans le débat.
C'est intéressant ça. Alors, je ne sais pas à quel point vous pouvez exprimer une opinion personnelle, mais... Est-ce que le débat français va bien? Parce qu'on est un peu à l'ère de la post-vérité, hein, comme le théorisent beaucoup de penseurs. Tout va beaucoup plus vite, il faut que les vidéos durent moins de 30 secondes. C'est difficile d'exprimer une idée assez longue. À votre sens, on en est où au niveau du débat d'opinion français? Question difficile.
Alors, effectivement, en fait, c'est une opinion personnelle, donc je ne suis pas sûre que ça ait beaucoup d'intérêt ce que nous préconisons au niveau de Sciences Po, parce qu'on pense que la nuance sera la clé pour se sortir justement de ces discours très schématiques. Plus on gagne en vocabulaire, plus on gagne en réflexion sur ce que l'on pense, plus on sera capable d'avancer sur des sujets qui sont extrêmement complexes et qu'effectivement, la société qui nous entoure nous oblige à simplifier à l'extrême. Donc soyons au moins chacun pour nous, plus dans la complexité. Acceptons que ça prend du temps, que ça demande des efforts, mais que si on le fait tous, on avancera beaucoup mieux.
Merci, Sarah Timon, d'avoir répondu à mes questions.
Je vous en prie.
Je rappelle que vous êtes la référente du pôle égalité des chances à Sciences Po Paris. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Cette émission est évidemment disponible en podcast sur www.radiobacfm.fr. Et d'ici là, c'est le retour de la playlist Rock Metal sur Back FM. C'est parti.